muchacho se lo lleve el diablo.
Maldito muchacho
se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho.
Palma.
Se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho. Se lo lleve el diablo.
Yo voy a los montes ligerito, corriendo.
Imaginez la scène. L'odeur du café brûlant, la brume des rêves qui s'estompe, le bitume crisse sous des pas inattentifs, les couleurs changent. Vous y êtes. C'est l'ordre du jour qui commence.
Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
malo muchacho. Se lo lleve el diablo.
Au début, j'étais très vexée et j'avais honte, d'elle et de moi aussi. Au début, j'étais offensée parce qu'elle fixait sur moi le regard glacial de ses yeux bombés et refusait de comprendre qu'elle était injuste avec celui qui l'aimait et qui, à 7 minutes, se retenait de faire des bêtises et de hurler, révoltée par sa grossièreté et son attitude bornée, obtuse et stupide, bien que passagère. Cela nous arrivait. Ces minutes d'incompréhension mutuelle se muaient en nuits d'insomnie, en une terrible fatigue, en une rancune et une amertume sans équivalent, et qui, pour moi, atteignait des dimensions cosmiques. Quoi qu'il en soit, cela se termina très mal, par une dispute, absurde et profondément offensante. Les choses dont je parle ici sont très fortes et douloureuses. Il me semble qu'on ne les dit à personne. On ne les dit pas parce qu'il est ridicule d'en parler, et puis je ne pense pas qu'elles puissent intéresser quiconque à part moi. Aujourd'hui, je me suis promenée dans la rue. C'était le soir. Les feuilles mortes étaient tombées à la pelle au bord du trottoir. J'ai fait plusieurs allées et venues, foulant du pied ces feuilles de peuplier bruissantes qui exhalaient un parfum âcre. Puis j'en ai bourré mes poches. Si un jour je me sens à bout, je trouverai un tas de feuilles similaires. Je me tirerai une balle dans la tête et j'irai piquer du nez dans l'amertume épicée de l'automne. Jamais je n'aurais cru que le monde entier pût se résumer à une seule personne. Bon, ça suffit ou je vais finir par débiter des platitudes. Cette nuit, je me suis réveillée et je suis allée fumer à la cuisine. Tout était calme. On entendait le compteur ronronner et l'eau s'égoutter du robinet. J'ai fumé pendant près de 10 minutes. J'ai éteint ma cigarette sous l'eau du robinet, l'ai jetée dans la poubelle et suis retournée dans la chambre. Elle était assise sur le lit et me souriait d'un sourire qui me serra le cœur. Puis, elle est aussitôt redevenue sérieuse et m'a montré du doigt la pièce voisine. J'ai tourné les talons et m'y suis rendue. Ayant oublié pourquoi j'y étais allée, je suis revenue dans la chambre. Elle n'y était plus. Si j'avais eu une arme sur moi, je me serais tuée sur le champ, à l'endroit même, parce que je n'en pouvais plus. C'est nerveux. Personne ne le saura. Les autres ne devinent jamais rien. J'aime beaucoup tout ce qui m'entoure. Le soleil, les gouttières rouillées avec les petites pierres dans leurs chéneaux, les feuilles orangées sur les arbres et la chaussée, les pigeons qui picorent du gruau de froment sur le trottoir. Ah oui, hier, dans ma rue, un arbre est tombé, un noyer d'Amérique. Il gisait en travers de la rue, ses branches souples, étalées sur l'asphalte, tout autour, s'éparpillaient ses feuilles, arrachées. Un individu a voulu traverser la rue, à bord de sa pobieda. Il a roulé jusqu'à l'arbre, puis prudemment, en première, a fait passer chaque roue sur le tronc d'arbre, avant de s'éloigner en accélérant. L'arbre est resté. Le dessin de ses branches portait les traces de pneus maculés de boue, formant 2 sillons sales. Les feuilles jaunes qui s'étaient trouvées sous les roues étaient recouvertes d'une couche de saleté grasse. Je ne pouvais plus regarder l'arbre, et la voiture continuait de s'éloigner, Déjà, on ne distinguait plus le singe en bois pendu à un élastique derrière la vitre arrière. Chacun a son amour. Moi aussi, j'ai le mien. Est-il ridicule que je sois fière de posséder quelque chose de sacré ? Cela ne fait-il pas penser à une personne qui, ayant eu la possibilité de voler une valise et ne l'ayant pas fait, se promènerait maintenant et se vanterait en proclamant partout « Je suis honnête, je n'ai pas volé cette valise. Vous pouvez m'admirer. »
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Bonjour à tous, vous écoutez l'Ordre du jour en direct sur Studio Zef. Et on écoutait, en tout début de cette émission, la solitude dans la matière de la nuit, l'écriture solitaire dans le solide du temps, c'était la lettre sans destinataire, dans les récits de jeunesse d'Andrei Tarkovski. Un morceau de carton, un morceau de monde, c'est le moment de la carte postale. Depuis le plexiglas de la caravane, dans les dunes de Flandre, je t'envoie ce que je vois de ma fenêtre.
La mer se retire en une plage éternelle. Route certaine pour suivre la terre. Entre les petites villes populaires, dessinées pour être déjà finies, il y a celle qui jamais ne se termine, les dunes. Est-ce un nom ? Une déesse, dune ? Haute comme des montagnes, sol de sable, mouvement de plantes, chemin d'oiseaux. Ils sont des centaines à avoir dessiné ce sentier. Rongeurs, cheval sauvage, enfants, soldats. Les lointains sont déserts, absents de l'image. Drap blanc. Alors, miracle. Les broussailles, petits arbres courts, mère de branches, devienne nette, se charge de couleurs que l'on n'avait jamais vues. Brun luisant, sable argent, gris rouge, vert carmin. Parfois, l'eau se rassemble à la fin d'une herbe et elle ploie ensemble, immobile. Herbe et eau, immobile. On devine les mouvements du sable devenu pierre. On y lit les traces, traces de feu, de pas, de noyades, de graines dispersées par ce vent. On y lit le temps, un hiver, 10 ans, une guerre, au moins 10 millions d'années. Personne, jamais personne. Ici, peut-être, ils viennent dormir, rêver, attendre, cacher leur caravane, chercher un vestige de métal. Paysage profond, creux, horizon de ruines. Soudain, dans un glissement de sable humide, tout change. Bitume, fossé, odeur de fer décomposé, ligne de camion, continent de terres infinies. Je t'embrasse.
Pendant ce temps, une discussion enfantine est nécessaire par Gabin. Et toi, grandir, t'en penses quoi ?
J'aime bien grandir parce que après on est un peu plus grand et tu peux faire plus de manèges, avoir plus de choses. Par exemple, il y a des jeux. Par exemple, si tu restes un an et que tu as envie de jouer à un jeu Super Mario Odyssey, 7 ans plus et que tu as toujours un an, ça c'est un peu nul. Mais si jamais quand tu restes tout petit, tu pourras toujours te souvenir de tes souvenirs d'enfance vu que tu resteras toujours un enfant. Et ça, je trouve que c'est bien.
Toi, tu te souviendras toujours de tes souvenirs d'enfance ?
Non, vu que je m'en souviens plus maintenant.
Envoyé, reçu, ils s'échangent comme autant de pensées discrètes. Les sons glanés çà et là. Il observe le monde depuis son scooter, en haut de la colline de Belleville, ses bennes sous la neige.
Rue de Belleville, tout en haut de la rue de Belleville. Il y a de la neige partout. Les gens s'accrochent au bout de lait pour traverser. Ils ont peur de glisser. Jourdain, rue de la Sud. Je cherche une place, mais le trottoir est tant neigé. Je vais me garer rue Jourdain. Mon scooter glisse. Ah, les travaux de la ligne 11 commencent. Les ouvriers sont tous en jaune. En train de s'habiller. 10 stations adaptées et modernisées sur la ligne 11. Par effet, génie civil. Ah, ça y est, je suis garé. Ah oui, ça va bientôt être l'arrêt de la ligne 11, Jourdain. Il y a une dizaine de mecs qui sont en train de se préparer, en train de garer leur camion qui loue tout. La nuit, les gens travaillent aussi.
Jeu du temps. Les générations et les ancêtres. Vies antérieures et vies d'enfants. Une seule question de langage. Par Olivier, au XIXe siècle.
Nous gardons tous en nous des traces de cette lutte contre la famine qui, pendant si longtemps, a constitué l'essentiel de la vie de notre espèce. Jusque dans nos organismes, nous détenons des souvenirs et des réminiscences de ce qu'a longtemps été la vie de nos ancêtres, et il continue d'exister chez énormément de nos contemporains. Rien n'étouffe autant l'empathie, ni ne flétrit davantage notre capacité de plaisir, que d'éviter constamment les grandes occasions d'aider les autres, et de continuer d'ignorer la lutte contre la famine, qui constitue la vie d'au moins la moitié des membres de notre espèce. Se fermer à l'existence de cette moitié de notre espèce, c'est enfermer en nous notre part la plus vitale. C'est s'exclure de cette moitié de l'humanité de laquelle nous avons hérité en naissant et se limiter à n'utiliser que la moitié de nos facultés. Nous avons tous déjà aspiré à une vie plus pleine, qui inclurait l'usage de ces facultés. Ces aspirations viennent complémenter les signes de l'immortalité desquels l'ode n'a pas encore été chantée. C'est au poète de les peindre, et tout autre qu'un poète serait bien imprudent de s'y essayer. Vous avez peut-être déjà vécu ce sentiment d'isolement qui vous saisit parfois, quand vous arrivez au matin dans une grande ville que vous ne connaissez pas. Le flux des travailleurs défile sous vos yeux, derrière les fenêtres de votre chambre d'hôtel. Vous voyez d'ardents ouvriers soulever de lourdes charges. Vous entendez le trafic et le fracas des énormes machines, et votre cœur se noie dans une soudaine sensation de futilité. La porte s'ouvre derrière vous, et c'est alors avec un léger sentiment de fraternité humaine que vous vous tournez vers l'homme qui vous apporte votre petit déjeuner. Vous vous surprenez à prier pour ne jamais perdre de vue ces sentiments à l'avenir. De façon plus poétique, vous pourriez prier pour que le grand giron maternel de notre humanité commune, avec ses travaux et ses peines, ainsi que ses modestes réconforts, ne vous soit jamais refusé. Vous vous tournez désespérément vers le serveur et vous sentez qu'il serait presque grotesque de lui réclamer la sympathie dont vous avez tant envie, parce que la société vous a donné un autre rang, mais vous regrettez votre position avec un soudain snobisme. Les peintures de ce genre de moments abondent en littérature. Ils arrivent aux naufragés sur leur radeau. Ces moments résorbent les différences internes d'une multitude désunie quand les gens doivent faire face à un grand danger ou qu'ils sont frappés d'un enthousiasme collectif. Ces moments ne se limitent pas à cela toutefois, et si nous prenions l'habitude de nous les raconter tour à tour, ce grand récit serait aussi long que les histoires que les enfants se racontent lorsque, assis dans l'herbe fraîche, ils se confient leurs divers souvenirs de leurs vies antérieures. Si ces contes d'enfants sont les réminiscences d'impressions innées, il est certain que ces autres moments sont l'élan de ces forces innées. Jane Addams, 1892. Thank you.
À Montmartre, il ne s'agissait que de gravir le moins vite possible les 660 mètres de la rue Le Pic, exploit annuel qui exige des maîtres du volant patience et sang-froid. À 2 mètres de moyenne à la minute, l'astucieux pilote d'un motoculteur prenait le meilleur. Il avait pensé à tout, même au casse-croûte. Il ne lui a pas fallu moins de 5 heures pour éliminer tous ses concurrents et être consacré l'homme le plus lent du monde.
C'est la fin de l'émission. Le soleil est levé. Quelque chose a changé. L'ordre du jour est placé. Et c'est alors Alban qui passait par là comme elle passe partout, chaque jour, comme chez elle.
Soleil au beau fixe, ciel bleu. Je erre. Je marche le long des docks et je m'arrête à King Street, une des plus anciennes rue de Bristol. Il y a encore des bâtisses médiévales en charpente, en bois. Un bon vieux pub qui s'appelle le Muggles Bar. À l'intérieur, on peut jouer au billard, je crois. Et que au billard, surtout. Mais il y a tout un étage réservé à ça, tout en moquette, etc. Et d'autre côté, il y a un vieux bar qui s'appelle The Old Duke, assez connu pour son jazz tous les jours. On est encore dehors, mais je vais bientôt rentrer dedans pour juste vous faire écouter un peu plus fort.
Je vous souhaite à chacun une très belle semaine. D'ailleurs, cette semaine sera très belle, je vous le promets.
Thank you.